Radio Okapi.
Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Sans plus attendre, découvrons ensemble les titres de l'actualité du jour. Des familles sinistrées par les intempéries de 4-5 avril passent leur nuit à la Belle Étoile dans leurs quartiers respectifs, privées d'accès au site d'hébergement en raison de manque d'informations ou de places disponibles. Elles lancent un appel désespéré à une intervention immédiate du gouvernement. Chute de 50% des importations des produits pétroliers. Les opérateurs économiques du Nord Kivu sont au bord du gouffre, tandis que le pouvoir d'achat des consommateurs s'effondre. Une intervention rapide est essentielle pour éviter une catastrophe imminente. Appel urgent pour un fonds spécial. Le directeur général de l'AZES veut dynamiser les zones économiques spéciales en RDC. Ogi Bolanda Menga souligne l'urgence de financer le projet et appelle un soutien massif pour transformer l'économie du pays. Ne manquez pas l'interview exclusive avec Radio Okapi. C'est tout pour les titres. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Nous commençons d'abord avec cette information. À Goma, dans la province du Nord Kivu, la population a vécu une nuit agitée en raison des fortes détonations d'armes légères et des explosions des bombes dans la partie ouest de la ville. Les quartiers Keshiro et Lac Vert ont été particulièrement touchés par ces tirs. Les détonations ont commencé à 22h et se sont estompées vers minuit. Selon certains médias, il s'agirait d'échanges entre le rebelle de l'AFC M23 qui contrôle la ville et des hommes armés assimilés au Wazalendo ou aux soldats FARDC. Sur place à Goma, dans un communiqué lu à la RTNC Goma, l'AFC M23 a indiqué que ses positions ont été la cible des attaques de la coalition FARDC Wazalendo FDLR. Une accalmie est observée ce matin. À Kinshasa, des centaines de familles victimes de récentes inondations ont été relogées dans des sites comme le stade de Tata Raphaël et l'école Lumumba à Limité. Pour elle, la vie reprend progressivement. Cependant, d'autres continuent de dormir à la Belle Étoile dans leur quartier respectif, faute d'accès à ces sites d'hébergement en raison du manque d'informations ou de places disponibles. Ces personnes appellent le gouvernement à créer un comité spécial pour faciliter leur accès à ces sites et assurer une prise en charge adéquate. Plotin Yambenga et Gloria Lutula sont allés à leur rencontre et nous présentons ce reportage.
Les calvaires continuent pour plusieurs familles victimes des récentes inondations dans la capitale, particulièrement pour celles qui n'ont pas accès aux sites réquisitionnés par les gouvernements. Ces pères de famille, victimes du quartier Ndano, s'est plaint.
On essaie de brouiller là où on peut dormir et puis c'est ça. Les enfants sont éparpillés, c'est ça. Il faut que l'autorité soit vigilante. Dans quel sens? Très souvent, on donne les aides des sinistrés aux mains d'autres personnes. Ces gens-là qui viennent faire de faux enregistrements. Les vrais bénéficiaires n'en bénéficient pas.
Ces médecins fustigent quant à lui les manques de transparence dans les processus d'enregistrement.
Mais comment voulez-vous que les gens restent toujours comme ça, isolés? Il y a le vieux, le vieillard, le petit. Alors il y a beaucoup de gens dans le monde là-bas. Il faut venir là-bas pour assister. Il y a les gens qui ne sont pas noyés ici, mais ils bénéficient. Mais ceux qui sont là-bas, dans les catastrophes, vraiment, pénitence, le mur tout éclaté, par-ci, par-là, vous ne voulez pas insister comment?
La situation est tout autre pour les ménages qui ont été admis dans des sites désignés par les gouvernements. Pour cette mère des deux enfants, logée à l'école Lumumba, la prise en charge est très bien assurée. D'après les ministères de la Santé, plus de 6000 familles sont victimes de ces inondations dans la capitale.
Toujours en lien avec les inondations dans la capitale congolaise, la situation reste critique dans le quartier Ndanou, situé dans la commune de Limité. Une semaine après les pluies torrentielles du week-end dernier, les habitants ayant tout perdu cohabitent encore avec des eaux stagnantes. En reportage sur l'avenue Conservateur, notre journaliste Rachel Kiesembangu nous décrit la situation actuelle. Écoutons son récit.
Nous sommes sur l'avenue Conservateur au quartier Ndano, l'un des quartiers touchés par les inondations des dernières pluies à Kinshasa. Il faut des bottes pour atteindre Ndano. Chez les Hongo, une famille que nous avons visitée, tout est sens déçu, sens dessous. La maison est humide, les canapés laissent paraître la boue, portes cassées, cahiers et livres mouillés, imprimantes abîmées, bref, ils ont presque tout perdu. C'est ce qui explique Joël Hongo.
L'eau des
avait en ville. L'eau était entrée et ça a fait des situations dévastatrices. Donc ça a dévasté tout. Même si vous voyez la maison, je peux vous montrer. Ça, c'est la limite de l'eau. On voyait même la télévision n'est plus. Là où ça est parti, nous ne savons pas. Vous voyez, il y a des histoires qui sont abîmées. Donc il n'y a plus rien d'utile ici. On a pu sauver. Parce que nous sommes aussi des îles, on peut pas laisser tout partir en vie comme ça. On a fait monter des histoires là-bas parce qu'on a un petit un niveau que les villes nous a laissé.
Heureusement pour eux, ils possèdent une maison en étage, ce qui leur permet de passer la nuit à l'étage. Contrairement à d'autres habitants du quartier d'Anon qui sont, eux, obligés de passer la nuit à la belle étoile car l'eau n'a pas baissé jusqu'à ce jour. Sans eau au robinet ni électricité, la population de ce coin est obligée de se rendre à des bonhommes pour se ravitailler pour ceux qui en ont les moyens.
Autre chose à présent, la préservation des glaciers du mont Rwenzori était le thème central d'un atelier de réflexion tenu hier vendredi au siège de l'UNESCO à Kinshasa. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la journée mondiale de l'eau célébrée chaque année le 22 mars. L'objectif était de renforcer la conscience collective sur l'importance des glaciers du Rwenzori pour la gestion de l'eau, d'encourager des actions concrètes pour leur préservation et de relever le défi du changement climatique tout en intégrant le processus de réalisation de l'ODD6 d'ici 2030. Plusieurs ministères, la société civile et la régie des eaux ont participé à ce rendez-vous. Jeff Opela nous en donne les détails.
Il était question de contextualiser cette journée mondiale de l'eau 2025 par les thèmes des Nations Unies et particulièrement les thèmes nationaux. Sensibiliser les publics pour les exposer des différentes thématiques autour du thème national, identifier les pistes d'action pour répondre aux défis relevés par les participants. Olivier Kachungwe, administrateur national des sciences naturelles et exactes à l'UNESCO.
Lorsque le ministère a choisi de se focaliser cette année sur le mont Rwenzori, l'UNESCO a trouvé que c'était une bonne opportunité de mettre en lumière la nécessité de protéger ces écosystèmes-là, de préserver les glaciers pour une meilleure protection des écosystèmes et des populations qui en dépendent.
Quant au directeur Louis Lungu, chef des services des ressources en eau au ministère de l'Environnement et Développement Durable, ces glaciers sont permanents et méritent la protection comme un bien mondial.
Je vous rappelle que ce glacier-là est un glacier permanent, il n'est pas temporaire, donc il coule de temps en temps sous forme des eaux, mais nous avons constaté depuis un temps que la fonte a augmenté de débit. Ça signifie qu'il y a des effets du changement climatique. Il faut absolument pallier à ça pour ne pas perdre ce glacier qui en soi est considéré comme un bien mondial.
Retenez que cette journée mondiale des glaciers a été proclamée par les Nations Unies dans sa résolution 77-158.
Retour au Nord Kivu. Le volume des importations des produits pétroliers a chuté de 50%. Les opérateurs économiques du secteur qui pouvaient auparavant importer 3 à 4 camions par mois peinent désormais à écouler un seul camion mensuellement, selon la Corporation des pétroliers du Nord Kivu. Parallèlement, la fiscalité douanière de ces produits a diminué au poste douanier de la Grande Barrière entre la ville de Gisenyi au Rwanda et Goma en RDC. Cependant, cette baisse n'a pas entraîné une augmentation de la consommation car le pouvoir d'achat des consommateurs a également fortement diminué. Pascal Chinamula nous en parle.
Au niveau de la ville de Goma, celui qui consommait 50 litres de carburant par semaine par exemple, consomme aujourd'hui difficilement 20 litres ou moins, nous révèlent les opérateurs pétroliers. De même, un camion qui quittait Goma pour Kisangani et qui consommait facilement entre 2000 et 2500 litres, c'est une chose qui ne se fait plus. Tous les autres trafics entre Goma et le reste de la République sont inexistants aujourd'hui. Ainsi, de nombreuses ONG humanitaires qui consommaient du carburant ont suspendu momentanément leurs activités. Tout ceci a entraîné des conséquences sur les importations des produits pétroliers et a fait sérieusement baisser les volumes des importations, déplore un pétrolier. En termes de pourcentage, il estime en 50% la baisse des importations des produits pétroliers. Du point de vue de la fiscalité, cet opérateur note tout de même une diminution des frais douaniers. Un camion de 40 mètres cubes qui payait 13 000 dollars paye actuellement 9 000. Cependant, cette baisse n'a aucune incidence sur la consommation. Alors que la logique aurait voulu que cette baisse stimule la consommation, ceci n'est pas le cas. Tout ceci parce que le pouvoir d'achat du consommateur a fortement baissé. Le dit pouvoir d'achat est dû à la fermeture des banques ainsi qu'au déplacement d'un grand nombre d'habitants vers l'extérieur de la ville. À cela s'ajoute également l'insécurité qui prévaut au quotidien dans la contrée.
Réunis au sein du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, plus de 100 organisations de la société civile s'activent pour la mise en œuvre effective de la résolution 2773. Elles ont réaffirmé leur engagement lors de la quinzaine citoyenne organisée hier vendredi à Kinshasa. Ces structures sollicitent le soutien du gouvernement et de la MONUSCO. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Des acteurs de la société civile disent avoir organisé ces forums après avoir constaté une sorte de léthargie dans la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette rencontre a permis aux participants venus de plusieurs coins de Kinshasa d'analyser, de comprendre les enjeux et proposer un cadre d'appropriation citoyenne de son application. Pour l'un des organisateurs de cette rencontre, il est nécessaire que la résolution 2773 soit portée par les acteurs sur terrain pour évaluer les efforts de stabilisation. Maître Patient Bachombe est convaincu que l'application effective de ces textes permettra à la RDC de mettre fin non seulement à la guerre, mais également de pacifier sa partie orientale.
Une des choses, c'est d'avoir la résolution. L'autre chose, c'est l'application effective de la résolution pour que la paix soit une conséquence.
Pour sa part, l'officier des affaires civiles de la MONUSCO souhaite que les organisations de la société civile puissent s'approprier la résolution 2773.
Qu'on voudrait juste de vulgariser la résolution de manière à ce que les organisations de la société civile s'en approprient.
Pour rappel, les conseils de sécurité de l'ONU avaient adopté la résolution 2773 à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire institutionnelle dans la partie est de la RDC.
Parlons santé. Dans la province du Maniema, la campagne de vaccination contre la poliomyélite se déroule bien dans la zone de santé d'Alungouli. Lors d'une interview accordée à Radio Capi hier vendredi, le médecin chef des zones d'Alungouli a exhorté toute la communauté de sa juridiction à faire vacciner tous les enfants concernés. Le docteur Kalyongo Pataoulé a rappelé que sa zone de santé entretient des échanges commerciaux avec celle de Loa, où un cas de poliomyélite a été découvert. D'où l'importance de vacciner les enfants. Écoutons le docteur Kalyongo Lopataoulé au micro de Florence Kizalunga.
La campagne de vaccination se déroule très bien. Depuis, on a lancé, sommes en train de superviser les activités. Jusque-là, de façon générale, ça évolue bien. Ça évolue bien par rapport à l'acceptation des parents avec leurs enfants. Et le vaccinateur ne trouve pas cette facile de barrière. En fait, le message ici, c'est d'appeler tous les parents de faire vacciner ses enfants. Celui qui sera absent, il peut même parler avec son voisin pour qu'il puisse, à son absence, se faire vacciner ses enfants. Parce que là, ils sont habitués aux enfants de 0 à 5 ans, 14 ans, tout simplement parce que ici à Loa, la zone de santé de Tchopo, qui est une zone voisine de notre zone de santé à Lungoli et qui a des échanges déjà, on a trouvé un enfant de 14 ans avec cette maladie. Comme il y a des échanges et que c'est un virus qui se propage rapidement, on a dit chercher comment éradiquer ce virus en vaccinant tous les enfants de 0 à 14 ans révolus. Voilà pourquoi nous lançons le message tous les parents de faire vacciner leurs enfants.
Dans le même chapitre au sud Kivu, l'hôpital général de référence de Calais et aussi n'offre plus le confort datant aux femmes enceintes qui viennent à la maternité. Les obus tombés sur les salles de maternité ont tout saccagé lors des affrontements entre le rebelle du M23 et les FARDC pour le contrôle du chef-lieu du territoire de Calais. Depuis bientôt 2 mois, ces salles restent en état de délabrement suite aux bombardements qui ont endommagé la salle post-natale, la salle d'isolement, de diabète, ainsi qu'une grande partie de la salle d'opération. Écoutons ces membres du comité de santé qui alertent l'opinion nationale et internationale sur la nécessité de venir en aide à cette institution médicale d'Ioussi Calais, dont une grande partie de l'infrastructure est quasi détruite.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a difficulté au niveau de cet hôpital où il y a les problèmes de salles d'accouchement, salles de maternité pour les femmes enceintes. Et les femmes vivent aujourd'hui dans des conditions inhumaines et sont très nombreuses. Elles manquent là où rester et comment rester du fait que les deux salles, la salle là d'ailleurs a été touchée totalement. La deuxième salle a été touchée aussi partiellement et n'a jamais été réhabilitée. Ce qui fait que nous lançons cette alerte aux différents partenaires locaux, nationaux, internationaux pour voir dans quelle mesure ils peuvent intervenir dans l'urgence pour placer les femmes, les enfants qui sont nés aussi pendant cette période dans une condition favorable.
La mairie de Colouisy, dans le Lualaba, s'est dotée d'une cellule service de désinfection et de dératisation. L'autorité urbaine l'a présentée aux agents le jeudi dernier et a indiqué que cette cellule va mener ses activités dans les résidences, les marchés et les lieux publics. On écoute le maire Jacques Massingo qui explique pourquoi il a créé ces services. Il a été joint par Jean Gandou.
Nous avons pris cette initiative pour protéger notre population, mais comme les produits que nous achetons pour rendre ces services, ce sont les produits qui coûtent cher, nous avons notre nomenclature au niveau de la ville et c'est celui qui est concerné qui peut passer. Parce qu'on ne peut pas fixer un prix pour accéder à ces services d'emblée, parce qu'on ne connaît pas les besoins des demandeurs. C'est comme ça que quand le demandeur vient, il nous présente son besoin, c'est alors qu'on peut évaluer et proposer un prix. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous le faisons dans l'intérêt de notre population. Suivant les besoins, nous allons augmenter le nombre du personnel. L'objectif poursuivi est clair, c'est la protection de notre population. Parce qu'à l'époque, c'est la Gécamine qui le faisait, mais avec les difficultés que la Gécamine a connues, elle ne le fait plus. C'est comme ça que nous, en tant qu'entité, en tant que responsable de la ville de Colouisy, nous avons jugé bon d'intégrer ces services-là au sein de la mairie pour que nous puissions servir notre population par rapport à ses besoins.
Actualité internationale.
En Afghanistan, c'est le plus grand nombre d'exécutions publiques en une journée depuis 2021. Hier vendredi, en effet, 4 hommes condamnés pour meurtre ont été exécutés dans des stades remplis de monde dans les provinces des Badkhyz, Nimroz et Farah, doublant quasiment en une journée le nombre d'exécutions publiques depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. L'ONU est indignée par l'exécution publique de ces 4 hommes en Afghanistan, a écrit le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur le réseau social X, en exhortant les autorités de facto en Afghanistan à instaurer un moratoire sur l'application de la peine de mort. Amnesty International, par la voix de sa présidente France, Anne Savinel Baras, appelle à faire pression sur les talibans pour qu'ils cessent ces exécutions publiques.
L'invité.
Le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES, plaide pour la création d'un fonds spécial destiné à financer cette institution publique afin de dynamiser les différents projets des zones économiques spéciales en RDC. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, Ogi Bolanda Menga souligne que, outre le problème de financement, l'AZES a également besoin de terrain et du soutien d'autres administrations. Il fait le point sur les zones économique spéciale 10 ans après la création de cette structure, dont cet entretien avec Grace Hamzati.
Ogi Bolanda Menga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez lancé les activités commémoratives sur les 10 ans d'existence de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES. Quel bilan dressez-vous de manière brève?
Merci beaucoup pour la question. Si on doit tirer un bilan, il y a des acquis. Le premier acquis, c'est ce que nous avons aujourd'hui, un cadre législatif qui existe à travers la loi 14/022, parce que c'est ça le socle en fait. On ne pouvait pas faire les zones économiques spéciales sans une base juridique. Il y a l'Agence des zones économiques spéciales qui existe, qui prend aussi certaines décisions pour gérer tout ce qui a trait aux zones économiques spéciales. Aussi, les S ne sont plus une vue de l'esprit. Les S sont devenues une réalité maintenant au Congo parce que nous avons des zones qui sont opérationnelles. Vous savez, nous avons par exemple la zone de Maluku qui est la zone pilote. En fait, les S font partie du programme du gouvernement, programme de l'État congolais qui veut mettre en place 20 zones économiques spéciales. D'une manière brève, on peut dire aujourd'hui, avec les plus de 5000 zones économiques spéciales qui existent dans le monde, la RDC fait partie aussi.
Mais jusque là, la RDC n'a que la ZES des Maluku qui est opérationnelle?
Non, pas du tout. Il y a plusieurs projets parce que nous recevons beaucoup de demandes que nous évaluons parce que nous, pour donner notre réponse, on prend un peu du temps parce qu'on doit évaluer sur base des critères. Mais aujourd'hui, nous avons à Kinshasa 2 zones économiques spéciales. Il y a la zone des Maluku qui est déjà opérationnelle parce qu'il y a des produits issus de cette zone qui sont déjà sur le marché. Il y a notamment les carreaux. Il y a les produits de la gamme Pepsi que les gens voient. Ça vient des Maluku. Il y a d'autres entreprises qui s'installent parce que nous avons signé avec 13 entreprises. Il y a la zone de Kinshasa Malibu qui arrive, qui est au niveau de l'Ancelé. Vous voyez en face du mausolée de Fétu Sekedi. On est en train de faire des travaux d'aménagement. On est en train aussi de recevoir déjà les entreprises. Nous avons déjà agréé, je crois, 3 entreprises qui vont s'installer dans cette zone. À Lubumbashi, nous avons 2 projets de zone économique spéciale, dont une est déjà en train de recevoir aussi des entreprises. Et à la zone de Kisushi, à Lubumbashi, et à la zone de Kinsevere, nous sommes dans les processus aussi pour déclarer ces terrains d'utilité publique. Parce que vous savez, le gouverneur des provinces que j'ai salué en passant a mis à notre disposition 2000 hectares de terrain que nous devons viabiliser. Mais ce n'est pas nous qui le viabilisons. Nous devons recourir aux opérateurs privés pour le faire. Mais il y a des préalables aussi. Nous avons dans les lois là-bas, il y a de cela 2 semaines, j'ai accompagné le ministre de l'Industrie, Louis Batoum, que je salue aussi, avec madame la gouverneure de la province du Lualaba, que je salue aussi, pour poser la pierre pour la construction de la zone de Moussompo. La zone de Moussompo, qui sera à Kolwezi, est une zone qui est mise en place dans le cadre de la mise en œuvre des résultats ou des conclusions de ce qu'on avait appelé en 2021 DRC Africa Business Forum. Il faut mettre en place une zone économique spéciale pour parvenir à transformer localement des produits miniers qui vont aboutir à la fabrication des précurseurs des batteries et in fine des batteries électriques. Et il y a Amoussienene, à Lubero,
au Nord Kivu,
qui est aménagé par la société Socitech. Malheureusement, pour le moment, vous savez, avec tout ce qu'il y a au niveau de cette partie du pays, mais il y a ces projets de zone économique spéciale qui existent.
Alors, lors de votre récente conférence de presse, vous avez dit que la zone économique spéciale de Maluku était déjà saturée. Quelles sont les entreprises qui sont déjà opérationnelles en dehors, bien entendu, des Pepsi et celles qui produisent les carreaux?
La zone de Maluku a une superficie, suivant les décrets qu'il avait créés, de 885 hectares. Mais sur les 885 hectares, nous utilisons jusque-là 200 et quelques hectares. Si nous disons que c'est saturé, c'est par rapport à ce 200 et quelques hectares, parce que, comme j'ai dit ici, nous avons déjà signé avec 13 entreprises. Et les entreprises qui sont venues ont quand même acquis des espaces assez grands, mais il y a déjà 2 qui ont commencé la production. C'était des premières entreprises d'abord. Il y a l'entreprise Saphir qui produit les carreaux, il y a l'entreprise Varun qui produit les Pepsi. Mais il y a d'autres. Parce que vous savez, les entreprises, quand elles viennent dans la zone économique spéciale, ils ont tout un programme d'investissement. Et dans leur programme, souvent les 2 premières années, ce sont des années de construction, des usines, tout ça.
Quels sont les critères pour installer son entreprise dans une zone économique spéciale de la RDC?
D'une manière brève, une entreprise légalement créée, une entreprise dont les secteurs se trouvent dans la vocation de la zone économique spéciale et qui a des moyens, il doit présenter aussi un plan d'affaires. Parce qu'on ne fait pas les affaires n'importe comment. L'aménageur et nous-mêmes, en tant qu'ASES, nous regardons quelle est la rentabilité de ces projets avant de donner un avis. Quel peut être l'impact de ces projets sur le point de vue économique, sur le point de vue environnemental, tout ça. Pour faire les zones économiques spéciales, ça demande beaucoup de moyens que nous n'avons pas. Le ministre de l'Industrie est en train de se battre pour qu'on arrive à mettre en place un fonds de financement des ZES.
Et donc, c'est ça aussi votre principale recommandation pour le bon fonctionnement des zones économiques spéciales.
Exactement. C'est vraiment une recommandation. Dans les 10 ans ici, vraiment, nous avons remarqué que les problèmes de financement se posent. Quand nous parlons de 20 zones économiques spéciales, c'est à mettre dans 6 espaces industriels qui sont bien identifiés. Mais pour cela, il faut 1,950 milliard de dollars. Et c'est vrai que cela ne va pas se faire en une année ou en 5 ans. Mais il faut mettre ça dans les temps. Mais seulement, il faut que cet argent-là soit disponibilisé.
Ogi Bolanda, merci.
Je vous remercie.
Ogi Bolanda Menga, directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, répondait aux questions de Grâce Hamzati dans cette interview. C'est ainsi que se termine notre journal, mis en onde par Polydor Basunga. Coordination Jude Mister Bilanda, présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et vous invitons à rester à l'écoute de Radio Capi pour plus d'informations et de programmes. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informé en temps réel. À très bientôt sur la même fréquence.